Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes donc aujourd'hui le 23 août 2021. Alors j'étais absent, je vous ai lâchement abandonné jeudi, vendredi et je vous ai remplacé mes vidéos matinales par autre chose pour parler d'investissement. Vous les avez massivement regardées, je vous en remercie en tous les cas. Aujourd'hui on reprend le rythme habituel, on reprend une semaine normale avec un marché qui s'en sort pas trop mal par rapport à ce qu'on a vécu pendant la semaine dernière. Il y a eu des très grosses corrections sur certains secteurs, sur certains titres. Ça n'a pas été très très simple. On va y revenir tout de suite, on va décortiquer un petit peu tout ça pour préparer la nouvelle semaine qui a priori a l'air un peu moins pourrie que la précédente. Alors avant de commencer ce résumé des marchés, ce petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, je voulais juste dire deux trois choses. Tout d'abord, je voulais remercier tous les gens que j'ai rencontrés entre jeudi et vendredi à ces présentations où j'ai eu l'honneur d'être invité à chaque fois. J'ai fait trois présentations. Salutations à tous, merci d'avoir été là la semaine dernière avec moi, c'était très très sympa. On s'est bien marré un petit peu partout et partout un petit peu. Et salut à Mickaël, tout spécialement à l'équipe de Bruno à Fuilly. Mis à part ça, pour le reste, eh bien, il faut quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Juste au niveau des vidéos, les deux vidéos de jeudi et vendredi dernier, j'ai répondu à une dizaine de questions, des questions classiques sur les marchés, sur comment investir sur le long terme. Alors écoutez, vu que ça a très très bien marché et qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, je vous propose, si vous en avez envie, qu'on refasse ce genre d'exercice régulièrement. Pour ce faire, il faudrait que vous m'envoyiez vraiment des thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Envoyez-moi des thèmes, pas des questions. Dites-moi juste, on aimerait que tu nous fasses une vidéo avec 10 questions sur une thématique d'investissement. Je sais pas, les fonds, les ETF, les produits structurés. Et je vous referai des vidéos comme ça, puisque visiblement, ça vous plaît. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de se faire du bien. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos thèmes que vous voudriez qu'on aborde sur des petites vidéos comme ça. Vous me l'envoyez comme d'habitude à tv@morningbull.live. C'est mon email, c'est moi qui réponds tout de suite. Donc, je vais récolter toutes ces brèves, toutes ces idées, tous ces thèmes. Et je vous referai des petites vidéos un peu marrantes comme ça. Pour le reste, qu'est-ce qu'il faut retenir de la semaine dernière? Donc, vous l'avez vu, les marchés se sont encoublés. Sur mes idées du jour, je me suis fait stopper sur Porsche, je me suis fait stopper sur BMW. Ça n'a pas marché à tous les coups. Ça a relativement bien fonctionné et ça fonctionne encore sur Nvidia. Le DAX se raccroche encore au mur, s'accroche encore à l'échelle. Donc, ça tient encore de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on a eu un marché qui était assez particulier. Et je crois qu'il y a quand même globalement trois raisons qu'il faut retenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Trois raisons importantes qui justifie ces mouvements un tout petit peu erratiques. Alors, la première chose, c'est les minutes du FOMC meeting. Alors, vous l'avez vu la semaine dernière, le FOMC meeting a parlé, ils ont parlé, ils ont publié ce qu'ils se sont dit il y a quelques semaines. Alors, donc, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. On se retrouve dans une grande salle, on parle des futurs des marchés, de ce qu'on va faire avec les taux, de ce qu'on va faire avec l'obligataire, et puis ensuite, on fait un discours, on dit ça au marché, le marché en fait ce qu'il veut, et puis on en parle pendant trois semaines, nous, les investisseurs. Et en même temps, il y a un mec qui a tout tapé sur une machine à écrire et puis qui a dit, voilà, j'ai écouté, entendu, j'ai retenu tous les mots, tous les échanges qui se sont faits et ça en crée les minutes. Alors, le temps de les mettre en page, ça prend trois semaines après, on les reçoit et on les a reçus mercredi dernier. Et quand on les a reçus, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait monsieur Coluche, finalement, il se pourrait éventuellement peut-être que d'ici la fin de l'année, la Fed vienne nous annoncer qu'ils vont probablement ralentir, voire stopper les rachats obligataires, faire ce qu'ils appellent du tapering. Et donc, du coup, le marché n'a pas aimé. Alors, stopper ce rachat obligataire, on connaît le principe, hein, simplement, ça veut dire qu'ils vont arrêter de soutenir le marché. Et s'ils arrêtent de soutenir les marchés, c'est la première étape pour la hausse des taux. Et le marché, quand il entend hausse des taux, il aime pas du tout. Il aime pas du tout. Donc, du coup, on a commencé à glisser gentiment au bord du gouffre et on a eu un début de peur. Et puis ensuite, il y a la Chine. Alors, la Chine, c'est le point 2 et le point 3 de ce qui se passe dans les marchés. Tout d'abord, on a monsieur Xi Jinping qui veut reprendre le pouvoir en Chine. Il ne veut pas laisser le pouvoir aux grosses sociétés comme c'est le cas aux États-Unis. C'est pas Google, Facebook et Apple qui dirigent le monde. En Chine, ce sera pas comme ça que ça va se passer. Et donc, il a laissé entendre qu'il ne voulait plus que les boîtes de e-commerce type Alibaba ou des boîtes comme Baidu type Google continuent à prendre des datas sur les gens, à connaître en fait les petits secrets du peuple chinois. Il veut qu'on respecte la vie privée des Chinois, ce que le gouvernement chinois fait super bien d'ailleurs. En fait, il préfère qu'il n'y ait que eux qui puissent s'occuper de la vie privée des Chinois. Donc du coup, pression vendeuse de nouveau sur les big names de la tech chinoise, Alibaba, Baidu, Tencent, j'en passe et des meilleurs. Alibaba a perdu, pour information, 400 milliards de market cap depuis le mois de novembre dernier. Donc on voit que là, de ce côté-là, le gouvernement chinois, qui ne l'oublions pas, reste un gouvernement communiste, a repris le pouvoir et a montré que je tenais le ménage avec une poigne de fer. C'est le gouvernement et ce ne sont pas les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc grosse pression sur cette thématique-là et ça continue à faire très très peur. Et puis alors, toujours à propos de la Chine, eh bien on se rend compte que d'abord il y a eu un Xième port qui a fermé en Chine. On a aussi vu que la vague de Covid reprend de la vigueur en Chine et donc on parle de confinement, on parle de restrictions. Il y a de moins en moins d'exportations qui sortent de Chine. Il y a une semaine en arrière, Goldman Sachs nous a annoncé qu'ils allaient en plus baisser, ils ont baissé leur perspective de croissance de la Chine parce qu'effectivement, plus d'exportations, des deux tiers des ports qui ne fonctionnent plus, c'est de plus en plus cher de faire venir un conteneur depuis la Chine, donc inévitablement, tout ce qui va partir de Chine va coûter plus cher, donc ça coûte plus cher, forcément les marges vont baisser, et les occidentaux avec leurs marges qui baissent, ils vont les répercuter sur vous les consommateurs, donc du coup, c'est quoi? C'est de l'inflation réelle qui se produit, et qui dit inflation dit hausse des taux, et s'il y a hausse des taux, bah le marché il aime pas, et rabolote, pas la boum. Et en même temps, quand on se dit, mais si la Chine ralentit, si les gens sont de nouveau confinés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont plus acheter de trucs dans le luxe. Et donc, on a vu la semaine dernière, l'ensemble du secteur luxe, avec les trois Français en tête, se faire littéralement déglinguer pendant toute la semaine. Hermès, LVMH et Kering se sont fait massacrer. Alors, est-ce qu'on a vu le fond aujourd'hui sur le luxe? Difficile à dire, mais en tous les cas, c'était monstrueux. Pas très logique, mais monstrueux. Donc j'en profite, on va lancer une cagnotte de soutien à monsieur Bernard Arnault, parce qu'il a quand même perdu un paquet de fric, 15% de baisse sur LVMH la semaine dernière, donc ça fait très très mal, 20% chez Kering, et puis 10% chez Hermès, donc ça reste beaucoup de pression vendeuse, on se dit, les Chinois ne vont plus consommer, le luxe, plus personne n'en voudra. La seule truc qu'on a un petit peu oublié, c'est que souvent, les très riches qui consomment beaucoup, eh bien en fait, qu'on soit dans une crise ou pas, en général, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent parce que c'est ce genre de réaction qu'on a souvent dans les marchés. On se dit, oulala, le luxe, ça va baisser parce que les gens vont plus consommer. Mais c'est pas vrai. Souvenez-vous d'une chose. Quand vous avez un compte en banque avec 200 millions dessus, si le marché baisse de 20%, mais vous avez toujours 200 millions sur votre compte en banque, et puis que vous voyez qu'il y a des gens à côté qui ont moins de facilité à trouver du travail, qui ont plus de peine à boucler les fins de mois, vous, ça va pas vous empêcher d'aller acheter un sac à main à 2500 balles, parce que vous en foutez. 2500 balles, quand vous pesez 200 millions, ça n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que les ultra-riches, que les marchés baissent, qu'il y ait des crises ou pas, en général, ils consomment plus ou moins la même chose. Et il faut vraiment que les crises soient longues, difficiles et durables. Comment ça ressentir? En effet, on l'a déjà vécu ces 20 dernières années. Mais comme on est une mémoire, comme d'habitude, de poisson rouge, on se souvient pas trop de ce genre de choses. Toujours est-il que cette semaine, eh bien, on s'est dit, oulala, oh mon Dieu, les riches ne vont plus consommer, plus personne ne va aller faire la queue pour acheter une ceinture Hermès ou une cravate Hermès avec des oiseaux qui s'envolent ou des oiseaux sur la branche. Donc aujourd'hui, cette semaine, on va devoir voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un rebond à jouer? En tout cas, vu les résultats extraordinaires qu'ont publié ces sociétés ces derniers mois, ça paraîtrait quand même bizarre que tout d'un coup, tout s'arrête parce qu'il y a trois Chinois qui ont chopé le Covid et qu'il y a des ports qui sont fermés. Mais effectivement, la crainte de la semaine dernière, c'est qu'il y a un certain impact qui s'est mis sur l'économie chinoise et que ça pourrait quand même tirer vers le bas. Donc voilà, c'est un peu les trois grosses raisons qui ont fait qu'on a une semaine relativement bof. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez les graphiques, si vous regardez le S&P qui s'affiche maintenant sur vos écrans, devant vos yeux ébahis, écarquillés, eh bien vous verrez qu'il est relativement sympa. Il a été tapé pile poil où il devait sur la moyenne des 50 jours et on a presque envie de se dire que si ça se trouve, la semaine prochaine, on sera au plus haut de tous les temps. Et c'est la même chose sur le Nasdaq, pareil, renversement de tendance, on a retrouvé un peu d'énergie, on a fait baisser les stochastiques, les MACD, et tout d'un coup, les charts sont de nouveau beaucoup plus attachants sur le Nasdaq, sur le SOX, et donc on pourrait se dire qu'effectivement, on pourrait, hein, je mets des guillemets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait jamais trop comment ça va commencer, on pourrait avoir peut-être une belle semaine qui nous ramènera à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas du tout la semaine dernière. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me demande ce que je pense des actions Olti, mais ce qu'elles font rien du tout par rapport à SMI. C'est clair que l'on voit la performance de l'indice suisse ces derniers temps et la performance de Olti par rapport à des Geberit ou à des Roche par exemple, eh bien c'est plutôt déprimant. Mais bon, alors globalement, si on regarde aujourd'hui sur le graphique de Olti, bah, juste là maintenant techniquement, moi, j'aurais tendance à vouloir la racheter à ces niveaux. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une seule chose. C'est que Holcim, j'ai traité pendant des années le marché suisse. Il y a une action où j'ai jamais réussi à gagner un centime dessus. C'est Holcim. Je suis extrêmement mauvais sur cette société. Mais néanmoins, techniquement, là, pour moi, elle était touchée un point de support. Elle a fait un reversal. Et elle pourrait rebondir. C'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. À côté, effectivement, c'est vrai que en jouant le plan d'infrastructure de Joe Biden qui va être validé un jour, normalement peut-être, ce plan d'infrastructure de 1000 milliards qui devrait être ajouté à terme avec encore 3500 milliards de plus, eh bien ce plan devrait forcément aider tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est entreprise dans le bâtiment et dans tout ce qui est para-bâtiment. Donc normalement, Holcim devrait forcément à terme en bénéficier un tout petit peu. Mais Holcim, d'histoire, ça reste quand même un truc qui est assez invo dans le SMI. Mais alors là, je la jouerais techniquement pour essayer de jouer 5-6 dollars à la bourse, enfin 5-6 francs suisses, pardon, de rebond. Mais c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Le titre n'est pas extraordinaire et je répète, je suis très mauvais, mais c'est vrai que la logique du plan d'infrastructure devrait redonner peut-être un coup de fouet à Holcim ces prochains temps. C'est ce qu'on peut espérer. Voilà, j'ai beaucoup parlé. De toute façon, je ne vais pas vous donner d'idée du jour parce que quand je reviens après 4 jours d'absence, je préfère regarder déjà un petit peu les marchés, voir comment ils vont se comporter en live et en couleur. Donc, on essaiera de revenir avec une idée du jour demain matin. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, surtout, de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, ce qui n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, ce qui me paraîtrait quand même très étrange. Et puis surtout, bah, pensez à revenir demain parce que on continue toujours notre vague de vidéos et on s'approche gentiment du premier anniversaire du Morning Bull Live. Ça fait déjà un an ou presque que je suis là tous les matins à échanger avec vous sur le monde merveilleux de la finance. Passez une très belle journée. Bye bye.